Bonjour, bienvenue, il est 10h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Une heure pour vous informer et vous exprimer, dans 10 minutes vos questions sur l'actualité, dans 30 minutes la dernière édition d'Afrique Matin, suivie comme tous les vendredis de votre libre antenne. Mais d'abord, le journal international, bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Juan, bonjour à tous. C'est ce qu'on appelle un débat raté, tellement raté que cette nuit à la télévision, le président américain Joe Biden s'est beaucoup embrouillé. Son grand âge inquiète jusque dans les rangs démocrates où certaines voix appellent à lui trouver un remplaçant pour affronter Donald Trump en novembre. Antonio Costa sera lui le nouveau président du Conseil européen. L'emploi du futur est de rigueur. On en est encore au conditionnel pour Ursula von der Leyen, qui devrait rester à la tête de la Commission. Et puis dans ce journal également, dernière ligne droite en France, ou plutôt dernier jour de campagne avant le premier tour des législatives. Ce sera dimanche. Joe Biden a un rhume, dit la Maison-Blanche. Une tentative d'explication après un débat raté, c'était cette nuit sur CNN. Le président américain affrontait son ancien et futur adversaire pour la présidence, Donald Trump. Alors contrairement à leur débat de 2020, pas de cacophonie ambiante entre les deux hommes, mais c'est un chef de l'État sortant confus, manquant d'assurance, la voix enrouée, à tel point qu'il n'y a pas que chez les Républicains qu'on se demande s'il ne serait pas trop âgé, 81 ans pour gouverner. Chez les démocrates aussi, on se pose sérieusement la question après cette prestation. Correspondant depuis Miami de David Thompson.
Durant ces 90 minutes de débat télévisé, la voix de Joe Biden est à peine audible. Ses mouvements sont lents, son regard absent. Le président américain bégaye, se reprend laborieusement, perd le fil de sa pensée à plusieurs reprises. Face à lui, Donald Trump s'en donne à cœur joie. Je n'ai rien compris à la fin de sa phrase. Je ne sais même pas s'il sait lui-même ce qu'il voulait dire. Une prestation jugée désastreuse sur les plateaux des chaînes d'infos américaines. Même l'ancienne directrice de communication de Joe Biden, Kate Bedingfield, est obligée de le reconnaître.
Joe Biden a vraiment été décevant durant ce débat. Son plus grand défi ce soir, c'était de prouver aux Américains qu'il a l'énergie suffisante. Et ce n'est pas ce qui s'est passé.
Et les démocrates passent en mode panique. Plusieurs, comme l'ancien conseiller de Barack Obama, Van Jones, appellent ouvertement à changer de candidat avant la convention démocrate prévue cet été.
Il nous reste encore du temps d'ici notre convention pour trouver une autre solution, s'il nous permet de le faire. Ce qu'on a vu ce soir nous panique, c'était douloureux.
Ce débat avait pourtant été demandé par la Maison Blanche. N'êtes-vous pas inquiète ce soir, demande un journaliste de CNN à la vice-présidente des États-Unis. Ça a commencé lentement, je ne vais pas le nier, mais le choix se fera en novembre. Temporise Kamala Harris, qui devrait remplacer Joe Biden en cas d'incapacité, elle qui est encore plus impopulaire que lui dans les sondages. David Thompson, Miami. RFI.
Et au-delà de la forme fragile, on l'aura compris, les deux hommes ont notamment évoqué la guerre en Ukraine. Elle n'aurait jamais eu lieu avec moi au pouvoir, a affirmé Donald Trump, qui s'est vu reprocher par son adversaire la fin de la protection fédérale du droit à l'avortement. Une très bonne chose, persiste Trump, à qui au passage a refusé de s'engager à reconnaître une éventuelle défaite en novembre prochain, pas sans condition, voilà ce qu'il a dit. On appelle ça des top jobs, des postes clés en bon français, ces postes les plus en vue au sein des institutions européennes. Il y a 5 ans, après les européennes, justement, les attributs avaient été très compliqués, les 27 s'étaient longtemps déchirés. Cette fois, s'il reste, c'est vrai, des sujets de crispation, le processus semble quand même aller beaucoup plus vite, puisqu'hier, à l'issue d'un sommet européen lui aussi assez court, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE sont tombés d'accord sur ces noms. Alors, tout n'est pas définitif, hein, mais il y a au moins une liste proposée par le triptyque conservateur socialiste libéraux qui se taille la part du lion au passage, au grand désarroi du Hongrois Viktor Orban et de l'Italienne Giorgia Meloni, qui eux espéraient profiter de la percée de l'extrême droite aux européennes du début du mois pour placer leur pion. Alors qu'est-ce qui est acté, qu'est-ce qui ne l'est pas encore? On fait le point depuis Bruxelles avec Pierre Benazet.
L'ancien Premier ministre portugais Antonio Costa a la certitude de devenir le nouveau président du Conseil européen le 1er décembre, à la suite de Charles Michel. La situation de l'Allemande Ursula von der Leyen à la Commission et de l'Estonienne Kaja Kallas à la tête de la diplomatie européenne n'est en revanche pas encore définitive, car il leur faut l'aval du Parlement européen. Elles seront donc auditionnées toutes deux lors de la prochaine session plénière, vers le 17-18 juillet, et elles vont devoir convaincre car rien n'est joué d'avance. Difficile de faire un pronostic pour Kaja Kallas. Toutefois, ancienne députée européenne elle-même, elle arrive avec une aura de respectabilité et de fermeté face à la Russie qui devrait l'aider. En revanche, pour Ursula von der Leyen, cette audition reviendra à passer sous les fourches codines du Parlement car elle s'est attirée des critiques pendant les 5 années écoulées. En 2019, elle avait d'ailleurs eu du mal à obtenir le feu vert du Parlement, un feu vert décroché à quelques voix près. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Dernier tractage sur les marchés, dernière réunion publique, dernières interviews, derniers sondages aussi. Demain en France, ce ne sera plus possible. Ce sera silence électoral en l'occurrence. Avant le premier tour des législatives de dimanche, la campagne s'achève à minuit. Le Rassemblement national de Jordan Bardella est toujours très en avance dans les intentions de vote. Le RN, dont le président français Emmanuel Macron dénonce l'arrogance, accusant le parti de s'être déjà réparti tous les postes du gouvernement avant même d'être sûr qu'il y aura une cohabitation. Il a aussi dénoncé une forme de parole désinhibée alors qu'un député sortant du Rassemblement national a estimé qu'un membre de l'exécutif ne pouvait pas être binational, visant particulièrement l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. On écoute la réaction d'Emmanuel Macron.
En arriver là, pouvoir dire cela aujourd'hui, c'est une dissolution des esprits et des consciences. Et je ne m'y résous pas. Et je ne m'y résoudrai jamais, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Mais ça en dit long, ce qui se joue dans la parole désinhibée qu'on a ces derniers jours, le racisme ou l'antisémitisme désinhibé, dit quelque chose d'une trahison profonde de ce qu'est la France, ses valeurs, de ce qu'est notre République et ses valeurs. Et cela, nous devons le combattre avec force. Et on doit s'indigner de ces choses-là. Parce que ça n'est pas de la politique, parce que ça n'est pas simplement un vote, c'est la possibilité même de vivre ensemble. Et donc nous devons avec force ne pas oublier quelle est notre devise. C'est ça la France. Et ça sera toujours ça, croyez-moi.
Un propos recueilli par Julien Chavannes. Et la possible arrivée du RN au pouvoir en France s'inquiète aussi en Afrique. En début de semaine, Jordan Bardella avait notamment annoncé son intention d'interdire aux binationaux l'emploi, ou plutôt l'accès à des emplois sensibles. Ça révolte Aliou Ntine, fondateur du think tank Africa Jom Center, basé à Dakar et qui travaille sur les questions de démocratie et de paix en Afrique de l'Ouest.
Quand on entend ce que dit Bardella, on est totalement indigné, surtout par rapport aux Français qui ont une double nationalité et qui ne pourraient pas exercer certaines fonctions. C'est ahurissant qu'en France, on puisse considérer que, bon, voilà, maintenant, il y a deux types de Français dans la République, les Français de France, de souche et les autres. C'est surtout encore, si vous voulez, cette pratique qui est toujours encore une pratique raciste. Hein, il faut appeler les choses par leur nom. Et cela, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Ce serait une régression énorme pour la France. D'élire des gens qui font des appels de cette nature et surtout qui tiennent un discours aujourd'hui, qui est un discours qui agresse les Africains, les Maghrébins, les musulmans. Et nous, nous estimons par rapport à cette situation, les Africains aussi, les leaders africains doivent prendre leurs responsabilités pour demander à ce que la diaspora africaine ne donne pas une seule voix à l'extrême droite. Ça, c'est notre position.
Aliou Ntine, interrogé par Pierre Firsion. On vote aussi aujourd'hui en Iran, élection présidentielle, un mois après la mort du chef de l'État Ibrahim Raisi. Quatre candidats encore en lice, trois conservateurs et un réformateur. Les pilotes irlandais sont en grève depuis mercredi et jusqu'à dimanche en principe. Ceux de la compagnie Aer Lingus contestent tout changement dans les tableaux de service et refusent de faire des heures supplémentaires. Ils veulent 24% d'augmentation salariale, des revendications qui clouent au sol 35 000 passagers. À Dublin, Clémence Pénard.
Près de 300 vols ont été annulés, comme celui de Jenny Corcoran, qui devait retrouver sa famille aujourd'hui à New York.
J'ai réservé mon vol des mois à l'avance et ils l'ont annulé à la dernière minute. Ça a mis un frein à mes plans. Le pays compte vraiment sur Aer Lingus pour les vols vers les États-Unis. Ce sont des vols directs et au meilleur prix. Donc, quand ils annulent tous leurs vols, tu n'as pas énormément d'autres moyens pour partir.
Et la grève affecte également de nombreuses Swifties. Taylor Swift donne trois concerts ce week-end à Dublin. Alors afin d'arriver à destination à temps, cette fan interviewée par la RTE a trouvé une solution alternative.
Je suis sur plusieurs groupes sur les réseaux qui concernent les concerts de Taylor à Dublin. Les gens ont passé des heures et des heures à confectionner leurs costumes et maintenant ils ne peuvent pas venir. Pour le moment, notre vol n'a pas été annulé, mais nous avons quand même réservé le ferry de nuit pour Dublin depuis Holyhead. Ça nous coûte 300 livres de plus de ce que nous avons déjà dépensé.
Demain, une grève de 8 heures devrait immobiliser davantage de vols. La direction d'Aer Lingus s'est dite, elle, prête à proposer des augmentations de salaire de 12,5%. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
RFI, il est 10h10 à Paris. Appelez-nous, exprimez-vous, la libre antenne. C'est fait pour ça et c'est dans un instant avec vous, Juan Gomez.
Merci, les auditeurs de RFI s'impatientent déjà au standard. C'était le journal de Gaëtan Plenet. Vous nous appelez si vous le souhaitez, évidemment, 33 9 693 693 70.